Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Suite de cette série avec vous, Véronique Garnier-Bovier, et bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous avez, et vous êtes l'une de ces victimes qui avait été, à l'âge de 13 ans, abusée par donc un frère prêtre de l'Église catholique, et que vous êtes donc en mission, puisque vous êtes déléguée sur le diocèse d'Orléans, déléguée épiscopale à la protection de l'enfance. Vous témoignez aujourd'hui dans de nombreuses paroisses où vous êtes appelée, et aussi pour des formations dans différents diocèses, et toujours autour de cette question douloureuse, dramatique, puisque ce sont des vies, ce sont des vies d'enfants, des cœurs brisés autour de ces abus sexuels. Au programme, je vous propose de revenir aussi sur l'importance de ce dialogue. On entend bien depuis hier et avant-hier que ce dialogue arrive, hein, tout doucement. Il faut s'apprivoiser entre les victimes qui ont été abusées et l'Église, donc l'épiscopat et ses évêques rencontrés il y a bientôt un an dans ce sanctuaire de Lourdes. Ce dialogue répare vraiment ce chemin entre victimes et
Oui, je pense que on peut dire que ce dialogue est de l'ordre de la réparation, tout doucement. Bien sûr, il faut du temps, il faut prendre des précautions. Et on essaye d'avoir beaucoup de respect. On doit aussi, faire attention. Je pense qu'il y a des efforts de tous les côtés à faire.
Vous pensez à quoi, faire attention?
En fait, on a très souvent des séquelles encore par rapport à ce qu'on a vécu. On doit faire un peu attention. Par exemple, à la CEF, le 19 juin, il y a quelque chose qui a été très apprécié, je pense. Il y avait une personne...
CEF, Conférence des évêques de France.
Voilà, le travail avec les évêques. Il y avait une personne extérieure qui nous aidait à ce travail de groupe. Ça, c'était très important. Alors, c'était très, très minuté. Elle nous manageait un peu, mais voilà, c'était bien. Je pense que ça rassurait certainement un peu tout le monde. Elle permettait que tout le monde se parle. Et par exemple, on avait chacun notre badge, enfin notre nom pour pouvoir savoir qui était qui, et elle a proposé qu'on s'appelle par les prénoms. Et alors il y a eu deux évêques dans la journée qui étaient là, et la pancarte était marquée avec leur nom et prénom. Il n'y avait pas le petit MGR habituel, et je trouvais que ça c'était un petit détail respectueux. Et alors il se trouve qu'elle a proposé qu'on s'appelle par ses prénoms, donc quand on se donnait la parole, et à un moment j'ai donné la parole à l'évêque Mola Beaufort, j'ai dit je donne la parole à Eric, et je trouvais que c'était une liberté, un respect de chacun. Je trouvais que c'était bien.
Le MGR est difficile à dire.
Pour d'autres
victimes aussi.
Oui.
Donc on est l'appellation en elle-même de père, d'abbé, de monseigneur, compliqué.
Oui, bien sûr. Moi personnellement, après ce que j'ai vécu, j'ai plus jamais pu dire père, un prêtre bien sûr, mais même à qui que ce soit, même à mon propre père, je pouvais plus dire papa ou père. Je l'appelais par son prénom, puis quand il a été grand-père, je l'appelais papy. Quand on s'est senti abandonné par un père, après c'est très difficile de pouvoir dire à quelqu'un en confiance père. Et pour moi, et aujourd'hui je pense que peut-être il y a quelque chose à réfléchir à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas les personnes simplement par leur prénom de baptême, ce qui place les uns et les autres dans une sorte d'égalité de baptisés. Voilà, c'est une question.
Comme autant peut-être de cette première communauté aussi qui commençait avec ses premiers apôtres et puis Jésus. Comment s'appelait-il ? Comment appelait-il Jésus ?
Certainement qu'il s'appelait...
Maître. Alors, on parle de dialogue, on parle d'écoute. Donc, ce dialogue s'installe et c'est de l'ordre aussi d'un apprivoisement.
Oui.
Important, l'apprivoisement.
Oui, oui. Alors, je voulais dire
c'est
aussi...
jamais gagné. C'est jamais gagné.
Non, il faut le refaire un peu à chaque fois. Mais petit à petit, la confiance s'installe des deux côtés et du coup, c'est plus facile.
Alors, permettez-moi, vous m'avez dit hors antenne, juste une phrase, mais qui aurait besoin peut-être d'être dite. Je ne veux pas réparer l'Église. On est dans le dialogue, on est un peu dans cet apprivoisement et au fond, cette écoute mutuelle entre les évêques et les personnes victimes. Et vous m'avez dit, je ne veux pas réparer l'Église. Alors, est-ce qu'on peut ouvertement, tranquillement, paisiblement, avec confiance, reprendre cette parole et comprendre cette parole surtout?
Oui, alors en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que pour moi, ce n'est pas un but en soi de réparer l'Église. Comment dire ? Moi, mon combat, il se situe un peu de façon déplacée par rapport à ça. Mon combat, c'est vraiment de tout faire pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres jeunes, n'arrive pas à d'autres enfants. Voilà, ça, c'est vraiment mon combat. Alors, si en même temps, ça répare l'Église, un jour, j'avais dit à l'évêque Blacard, eh ben tant pis. Alors maintenant, je dis plutôt tant mieux. Mais ce n'est pas mon principal objectif n'est pas de réparer l'Église comme un but en soi, mais vraiment de faire que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Mais bien sûr, peut-être si on réfléchit et on creuse, et si on protège les enfants, en même temps, ça répare l'Église. Mais moi, j'ai un peu difficile de faire cette... C'est un raccourci que je n'aime pas. Mais peut-être vous pouvez le faire, mais moi, pour moi, je n'aime pas trop ce raccourci. Alors, ça me renvoie à l'actualité quand l'église Notre-Dame de Paris a brûlé en début de la Semaine Sainte. C'était très frappant, très bouleversant. Beaucoup de chrétiens catholiques et même de Français ont été bouleversés par ces images qu'on a vues. Moi aussi, j'ai voyé sur mon téléphone ces images de l'église Notre-Dame qui brûlait. Et pour moi, vraiment, j'ai été dans cette... je me disais, mais si seulement cette image pouvait être comme une vision, rendre visible l'Église, pas seulement de Paris ni de France, mais l'Église totale qui brûle. Et moi, je voyais dans ces flammes la douleur brûlante des victimes. Et je me disais, si seulement ces images aidaient le plus possible de personnes à comprendre notre douleur brûlante. Et j'avais cette phrase qui venait, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà. Et je me disais, voilà, la douleur des victimes devient visible. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va éteindre le feu? Et après, il va rester un peu des ruines. Et comment va-t-on reconstruire? Que va-t-on faire? Je pense qu'il ne s'agit pas de vouloir reconstruire l'Église, alors surtout pas à l'identique, puisqu'on s'aperçoit qu'il y avait des choses très malsaines, bien que peut-être la charpente de Notre-Dame sera reconstruite à l'identique, on ne sait pas. Mais par contre, reconstruire sur des bases saines et sans doute protéger les enfants et mettre les victimes au cœur de l'Église, comme ça a été demandé à Rome. Voilà, ça va réparer l'Église. Mais si on veut réparer l'Église comme un but en soi, on risque de passer encore à côté des victimes et de pas mieux protéger les enfants. Voilà, c'est ça que peut-être je voulais dire. Et oui,
cette cathédrale de Paris qui s'est enflammée vous a inspiré.
Oui, mais je crois que je ne suis pas la seule. En tout cas, j'ai pu
d'autres
suite...
victimes aussi ont eu la même clé de lecture.
Je pense, mais pas seulement des victimes. Mais moi,
cette actualité de Notre-Dame.
Oui, j'ai tout de suite dit ça à l'évêque Georges Pontier, aussi à l'évêque Moulin-Beaufort. Et je crois qu'on était en phase sur cette lecture.
Véronique, si vous permettez, je vous appelle Véronique. Oui. Vous appelez les évêques par leur prénom. Je vais vous appeler par le prénom.
Certains.
Certains.
Sinon,
certains.
Je ne peux pas les appeler. Je ne leur dis rien. Alors, quand je peux être un peu à l'aise, si l'occasion m'est donnée, parce que je crois que c'est...
Vous pouvez leur dire un mot et on se retrouve demain à la même heure. Si vous deviez adresser encore, par le biais aussi de nos radios et de cette émission, un mot aux évêques.
Le mot aux évêques, je veux dire, c'est le plus important, c'est qu'on est tous baptisés. Et de baptisé à baptisé, on peut bien s'appeler par les prénoms.
Merci Véronique Garnier-Beauvier. Je vous propose de vous donner rendez-vous donc demain à cette même place, à la même heure, et pour la suite de cette série des clés pour vivre. À demain.
Merci, à demain.